je vous laisse la parole directement maintenant.
Et ensuite, c'est toi qui traduis.
Et ensuite, on pourra échanger.
Ce micro.
C'est pas un micro.
Alors.
Il n'y a plus de micro.
Vous voulez vous asseoir ici ?
Comment ?
Vous voulez vous asseoir ici, vous entendrez mieux.
Ah, peut-être. Restez.
Je vais prendre une douce boîte avec vous.
Merci bien. Chers collègues et amis, je remercie au premier point à Jean-Louis Mestre pour la présentation de mon livre. Et chère hôtesse et ami Pascal Gonneau, qui nous a invités généreusement, et à la fin, les traductrices Marie-Ange Maillet et Marie-Ange Roy. Maya. Avec elle, j'ai échangé beaucoup d'emails pendant les 2 années et je vous dois un grand merci spécial pour votre travail. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre travail, votre lecture soigneuse et pour tout ce qui est nécessaire pour préparer et produire un livre de 700 pages. C'est-à-dire, je dois remercier aussi à la maison Dalos et dans cette maison spécialement à Madame Magali Bimard. La communication avec elle était parfaite et excellente et productive. En somme, je suis heureux. Heureux, ce n'est pas une phrase, je le dis vraiment avec conviction. Que le projet d'une traduction de cette histoire du droit public en Allemagne est avancé et peut-être va avancer encore, je ne sais pas. Ça coûte. Car la situation entre nos deux pays concernant les langues et les sciences humaines est déplorable. Chez nous, la capacité du français se diminue en faveur de l'anglais. Et chez vous, la capacité de parler et lire l'allemand, c'est la même chose, je crois. On ne traduit pas mal la littérature et la philosophie, mais dans la jurisprudence, et surtout sur le petit champ de l'histoire du droit, la situation est, je le répète, déplorable. Une lettre que j'ai écrite au chef de Airbus à Toulouse. J'étais professeur invité à Toulouse et alors j'ai pris la possibilité de écrire au chef de Airbus pour lui animer une fondation pour la traduction des livres entre les langues romaines, slaves et germaniques, avec l'exception de l'anglais. Cette lettre n'a pas trouvé une réponse. Alors, je comprends, l'économie est internationale, elle parle anglais et la communication scientifique entre les pays sur le continent ne trouve aucun intérêt. Permettez-moi que je dise encore quelques mots sur mon projet de cette histoire du droit public, ou des droits publics, la pluralité entre les 25 États en Allemagne du 19e siècle. J'étais occupé avec ces études dès 1986, et depuis mes études chez mon maître Sten Gagner, un Suédois, à Munich, vous avez mentionné, j'étais occupé avec l'histoire du droit privé de Franz Wiacker. Toi, tu as mentionné Wiacker. C'est aujourd'hui encore une excellente monographie, même si sur certains points, elle apparaît inexacte, dépassée et semble très datée. J'admirais cet ouvrage de Wiacker pour son allant intellectuel et pour la capacité qu'avait Wiacker de mettre les choses en contexte pour les rendre compréhensibles. Et je me disais, dans ma jeunesse, naïve, Ne serait-il pas possible de faire quelque chose de semblable pour l'histoire du droit public? Il était incontestable qu'il manquait une histoire moderne du jus publicum qui chercherait à insérer les discours universitaires sur tous les phénomènes ressortissants au pouvoir public dans la politique, les mentalités et l'histoire sociale de chaque époque. Cela signifiait qu'on ne pouvait se contenter d'évoquer les grands noms, mais qu'il fallait également prendre en compte les petits auteurs oubliés, sans pour autant se lancer dans un travail de bibliographie pure et exhaustive. Et il ne s'agissait surtout pas d'écrire une histoire du progrès qui trouverait son aboutissement dans le présent et se laisserait prendre au piège d'une approche rétrospective. Alors, j'ai commencé, comme je disais, complètement naïf, ce travail dans la bibliothèque de Wolfenbüttel, célèbre pour à peu près 1 million de livres des temps modernes, et pour ces fameux bibliothécaires Leibniz et Lessing. J'écrivais le premier volume finissant avec la fin du Saint-Empire germanique en 1806. Ce premier volume a bénéficié d'une excellente traduction, déjà mentionnée en français, de la part de Michel Sénélard, un ami, maintenant professeur à Lyon. Le livre a paru au PUF, mais n'a manifestement pas été remarqué en France. Je n'ai pas lu quelques recensions. Peut-être cela, il est dû au fait que le sujet semblait trop étranger, trop lointain et au final trop allemand, trop fixé sur les débats intellectuels et non pas sur l'histoire de l'administration. Je ne sais pas. Le deuxième volume acquit lui aussi des contours temporels nés, puisqu'il débute en 1806 et s'achève avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Au XIXe siècle, toutes les tendances se croisent. La Révolution française est suivie d'une série d'autres bouleversements. Le monde de l'Ancien Régime sombre lentement. La bourgeoisie en Allemagne reste bloquée dans le processus de l'émancipation politique et cherche sa voie entre État autoritaire et un quart-État qui monte en puissance. Les révolutions sociales et industrielles avancent main dans la main. Le nouvel État national, formé d'éléments libéraux et autoritaires, donne ensuite naissance à partir de 1878 à l'État interventionniste et à l'État de la société de masse. Associations et syndicats se mettent en place à côté des partis politiques. C'est en évoluant sur ce sol mouvementé qu'il fallait décrire la naissance de l'État de droit, de la monarchie constitutionnelle, la naissance de la théorie générale de l'État, l'ascension du droit administratif moderne et de la théorie administrative. Le milieu où la ligne du partage du livre est constituée par la folle année, comme on disait, la folle année de 1848, les déceptions qui lui sont liées ont laissé des traces profondes dans la conscience générale en Allemagne, mais en même temps, la constitution impériale de 1849, qui n'entra jamais en vigueur, ainsi que les droits fondamentaux et le droit de vote qu'elle instaura, créèrent le critère d'une liberté à venir, critère qui continua à exercer son influence jusqu'à la loi fondamentale d'aujourd'hui. Le deuxième volume s'achève sur l'éclatement de la guerre, de la Première Guerre mondiale. D'autres césures auraient été ici envisageables, mais le mois d'août 1914, qui avait atteint un statut de mythe, distingue l'avant et l'après d'une manière aujourd'hui encore prégnante. C'est comme si cette époque, que l'on présente en partie comme étant le bon vieux temps et en partie comme une fin de siècle suicidaire, s'était précipitée d'elle-même dans l'abîme. La césure de 1914 avait cet avantage formel qu'elle permettait de présenter l'énergie énorme déployée tout à coup par l'interventionnisme de guerre comme un facteur de modernisation de la non moins dramatique époque de la République de Weimar. Vous savez, chers collègues et amis, que j'ai continué cette histoire du droit public avec un troisième volume sur la République de Weimar et le national-socialisme, et j'ai fini mon travail avec un quatrième, et c'est promis définitivement le dernier volume sur le temps entre 1945 et la réunification de l'Allemagne en 1990, cette année miraculeuse de l'histoire du monde. Pour finir ce marathon de 25 ans, j'ai écrit une courte somme, Olivier a déjà mentionné, un livre de poche. Les plus que 2000 pages de 4 volumes sont ici réduits à 200 pages en miniature. Ce sont, j'espère, les étudiants qui vont en profiter. C'est comme une clé dans les 4 volumes. Et cette année, on aura aussi une traduction française d'un livre de poche sur le droit à l'ombre de la croix gammée, étude sur l'histoire du droit du national-socialisme, traduit par Christian Rock. Ce livre aura alors une position parallèle à la traduction anglaise sous le titre « Law under the swastika » fait chez Chicago University Press. À la fin de mes remarques, il me reste seulement de dire encore une fois un grand merci à vous pour cette analyse vraiment profonde et intelligente et beaucoup plus savante que l'œuvre soi-même. Et surtout, un grand merci à Pascal Gonod et Jean-Louis Mestre pour cette présentation. Je suis ému profondément de ce témoignage de collaboration et amitié. Merci.
Par toute l'intelligence déployée de part et d'autre. Grégoire.
Il pourrait faire part de mon admiration pour une belle
œuvre. Peut-être moi je pourrais juste rebondir sur ce qu'a dit Michel Stolaï sur l'histoire des traductions. Effectivement, très frappant de voir que on a beaucoup de mal à traduire les ouvrages allemands en français et les ouvrages français en allemand. Qui a aujourd'hui une contrainte très forte à la publication en anglais. Je pense qu'on perd beaucoup en publiant en anglais et que je ne sais pas si on peut lutter contre cette tendance. Il est vrai que nos industriels donnent rarement d'argent aux universités. Alors en Allemagne peut-être, en France ça n'existe pas. Vous savez, Michael, nous avons une nouvelle loi 2007 sur les responsabilités, liberté et responsabilité des universités et on avait une ministre extrêmement volontariste et... un peu obtus, d'une certaine manière, qui croyait que les patrons français allaient donner de l'argent à l'université. Alors à Paris 2, certains de mes collègues ont dit, ça y est, enfin, on va avoir des primes mirifiques, puisqu'on aura une fondation à Paris 2 qui va nous donner de l'argent. Et bien, personne ne nous donnait de l'argent. Et alors, je ne vois pas pourquoi ils donneraient de l'argent pour des livres, puisqu'ils ne sont même pas capables d'en donner pour les étudiants et les professeurs. Mais c'est un vrai débat. Je ne sais pas comment résoudre ce problème qui est... monstrueux. C'est vraiment un gros problème qui est que il y a des effets de domination, ce qui fait qu'on a des auteurs anglo-américains qui sont mauvais, pour dire les choses clairement, qui sont connus dans le monde entier pour des mauvais livres, Et il y a des grands auteurs allemands, je suis extrêmement prudent, qui ne sont pas traduits en anglais et qui ne sont pas connus. Donc là, il y a un effet pour la science. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la situation du latin d'avant où tout le monde écrivait en latin, etc. Non, non, ce n'est pas du tout vrai. On a une situation inégalitaire qui a des effets, à mon avis, très dommageables sur la... sur l'état de la science. Alors ça vaut pour les historiens, ça vaut pour toutes les disciplines, ça vaut beaucoup pour en droit, pour en, sur la marque, sur le, pourquoi il n'y a pas eu de réception à ce livre, à ce premier tome, votre premier tome sur l'histoire du droit public en Allemagne. C'est simplement, je pense, parce que c'était de l'histoire du droit. Voilà, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est extrêmement rare de voir des recensions, en tout cas dans les journaux, les journaux un peu savants, en France, sur les ouvrages juridiques. Donc je pense que ça explique... l'absence de recension, et c'est aussi très dommage. Voilà. Je voulais faire cette remarque comme ça, puisque personne ne parle, donc je dis voilà, bon,
j'ai invité. Il y en avait une dans la grande presse, alors ouais. Je l'ai retrouvée, ouais. Mes papiers.
Bon, dans mon.
Peut-être je peux ajouter oui. Que la Fondation Volkswagen m'a informé qui a réalisé le financement de cette traduction. C'était le dernier cas pour une traduction en français.
Ah oui, oui, oui.
On s'est concentré sur les traductions en anglais.
En anglais.
Parce que c'est la langue dominante. Et c'est pas seulement un problème entre l'Allemagne et la France.
Oui,
c'est partout. C'est l'Espagne, ce sont les pays nouveaux de l'Est qui ne sont pas traduits, pas du tout. Oui. C'est presque impossible au moment. Et, c'est pour ça que j'ai dit que la situation est déplorable. Mmh. Et je suis un peu triste que Airbus n'a pas montré aucune réaction.
Cela étant, je vais défendre quand même un peu la collection Rivage du droit. Et vous pourrez remarquer qu'il n'y a qu'un texte ouais. Anglais et que dans les 8 qui sont en préparation, il n'y a pas d'anglais. Hein. Donc il y a des Allemands, il y a des Italiens, des Espagnols. Effectivement, sur les pays de l'Est, c'est très compliqué, mais c'est aussi lié à ma méconnaissance, simplement ma méconnaissance personnelle des juristes. J'ai un peu de contact avec les Polonais, là, il y a un projet qui est en train de se faire, mais il y a aussi cette question de la connaissance des travaux des autres. Hein, et je pense qu'il y a des... Je pense à un juriste auquel je veux rendre hommage, parce que c'est lui qui m'a amené d'ailleurs vers l'Allemagne, c'est Pierre Legendre. Pierre Legendre est beaucoup... plus connu en Allemagne qu'il n'est en France, et d'une certaine manière, aussi par ses enseignements, il a un peu happé un certain nombre d'étudiants à d'autres systèmes juridiques, en tout cas. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous que la situation est proprement catastrophique. Mais j'espère que... Et je suis même convaincue que ce volume-là aura plus d'audience, ne serait-ce que parce qu'effectivement, d'abord, il y a un terrain qui n'est pas le même qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a eu des ouvrages sur l'Allemagne. Et d'autre part, les Français, vous savez, leur histoire commence avec la Révolution française. Donc cette période-là les intéressera davantage que la période antérieure. Parce que je pense qu'une des raisons de la non-audience du premier tome est sans doute liée aussi à la période sur laquelle cela porte. Il y a quelqu'un qui... Non. Il n'y a pas peur.
Maya, est-ce qu'il est possible de te dire quelques mots sur la traduction? Donc c'est traduisible ce qu'il écrit.
science au-delà de ce qu'on peut penser, parce que toutes les questions d'éclaircissement, il nous a tout point par point explicité quand on avait des problèmes. Et l'autre chose, monsieur, c'est sans vos ouvrages sur l'Allemagne, parce que je crois que sans les ouvrages les articles qu'on a lus de Olivier Beauss, les livres de Olivier Jouan-Jean et le livre de Patrick Hummel, je crois qu'on ne s'en serait pas sorti. Donc, la deuxième chose, c'est qu'en tant qu'ignorant tout, non pas de l'histoire de l'Allemagne, mais de cette histoire du juriste, et du droit, aussi bien ma collègue que moi-même, je dois dire qu'on a commencé, on a découvert un pan et on s'est intéressé réellement à ce pan. Donc, je pense que pour des gens qui ne connaissent pas, peut-être pas grand-chose, mais à l'Allemagne, mais il y a une telle richesse, c'est tellement intégré dans le contexte, les choses sont tellement explicitées. Et en même temps, on voit, enfin, moi personnellement, qui suis, qui ai eu une formation moins idéaliste que matérialiste dialectique, pour ne pas employer les mots qui fâchent, j'ai été totalement fascinée, j'ai découvert, côté juridique, exactement ce que vous expliquez, ces constructions, qui sont d'une intelligence, à mon avis, fabuleuse. Bon, là-dessus, je vais dire, moi, je me suis passionné, celui qui me passionne le plus, c'est Yelinek.
Vous avez raison.
Vous trouvez,
c'est le meilleur.
Là, on va le calmer parce que là, on revient.
Alors, sur la traduction proprement dite, je veux dire, on a fait le travail, n'étant pas juriste, on a fait le travail, de se documenter et puis ensuite seulement passer à la traduction. Avec ce problème que vous avez souligné, de ces choses, déjà le Staatsrecht allemand, qui inclut tout, qu'on traduit par droit public, mais qu'à certains moments, il faut traduire par droit politique, à d'autres moments, c'est le droit constitutionnel. Ça, c'est toute cette histoire, enfin, toute l'histoire de la façon dont ces différents droits se sont sortis. Enfin, se sont extraits petit à petit dans l'histoire de cette chose qu'on appelait le droit de l'État, puisque je t'adresse au départ, c'est le droit de l'État. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. C'est une histoire allemande. Bon, je ne sais pas, j'ai lu quelques traités de droit constitutionnel français, ne serait-ce que pour avoir le vocabulaire, qui allait le lexique, comme on dit, qui va avec. Bon, voilà. Donc cette traduction, ben, je ne sais pas, je pense que ce livre fait que même quand on n'est pas juriste et qu'on n'y va pas avec des lunettes de juriste, c'est une histoire passionnante d'une culture, une partie de la culture allemande qui peut avoir des échos pour nous aujourd'hui. Bon, je n'en dirai pas plus, mais je pense que Il y a des ponts qui se... C'est un livre de culture. Voilà. C'est, bien sûr, ça traite du droit, mais c'est un livre de culture. Et je ne trouve pas très bien en ce moment. Je pense que ça peut être intéressant. Si, voilà. Mais bon, pour le travail de traduction, je crois que j'ai dit l'exfane. C'est essentiel. Je pense que c'est la question.
Très bien.
Il n'y a pas de regret, non?
Ah, Marie-France.
Juste une question en fait au professeur Stolaïs, qui tient, non pas une contradiction, mais une sorte de tension entre les différentes interventions des intervenants, enfin des différentes interventions, pardonnez-moi. Et donc on a Baroudi. Et on insistait sur le fait que c'était une histoire allemande, d'un droit public allemand, fait par un Allemand, c'était la science juridique allemande. Et puis tout de même, donc, chez Philippe Autre, c'est-à-dire d'autres, l'idée qu'il y avait tout de même une sorte de jus commune, quelque chose qui ressemblait à un jus commune. Et puis plus particulièrement chez Olivier Jean-Jean, donc, à un moment on a basculé et on a dit, C'est l'histoire du droit public en Allemagne, donc on a une sorte de droit public essentiel qui connaîtrait des rencontres avec des réalités nationales, et en fait cette histoire du droit public allemand s'insère, est un élément, est une composante, et je suis d'accord, je parle pour soulever un peu le débat, c'est une composante d'un droit public européen. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette dernière orientation, donc esquissée par Olivier Joinjean?
C'est absolument ma conviction qu'il existe un droit public européen, jus commune publicum, dès le Moyen Âge. Le droit public allemand n'est pas une province séparée de l'Europe, pas du tout. Les influences de l'Europe, commençant avec Marsilius de Padua et Baudin et Hobbes et Locke et Rousseau et tout ça, c'est évident. Et je crois même contre les historiens, mes collègues en Allemagne qui sont toujours occupés avec le droit privé. Je crois que cette jus commune publicum européum est beaucoup plus important pour aujourd'hui, pour la construction d'une Europe moderne et unie. C'est l'invention d'une constitution, c'est l'invention des droits fondamentaux, c'est l'invention de la séparation des pouvoirs et tout ça, le principe de majorité. Ça est un élément vital de notre présence. Et à l'autre côté, je vois que le droit commun privé n'est pas respecté à Bruxelles. Pas du tout. Ça n'a aucune importance pour la législation européenne ni dans les États nationaux en Europe. Mais c'est une différence entre les deux cultures, droit privé et droit public. Et mon cas spécial en Allemagne, je suis presque seul avec cette vision d'une histoire du droit public général européenne. Mais ce n'est pas encore fait, c'est extrêmement compliqué. Dans ma prochaine vie, peut-être je commence avec ça, mais pas dans cette vie. Merci pour votre question.
On va clore donc ces débats. Je vous remercie tous. Et ceux qui n'ont pas lu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller lire.
C'est délicieux.